Et bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas sa tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, plus ou moins probable, plus ou moins pertinente, mais toujours dans 24 notes secondes, les petites images qui bougent sur tous les types d'écrans. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien nous allons consacrer notre émission au pire. Alors pas aux pirates du rail, pas aux pirates de la finance, aux vrais pirates, aux pirates qui sont sur des galions, qui vont chercher de l'or dans l'île au trésor, certainement hein, des romans adaptés au cinéma d'ailleurs, les plus connus sur les pirates, bref, ils ont toujours fait rêver, ça continue d'ailleurs à marcher, on va le voir, et on va évoquer donc quelques films de pirates qui seront, je le crains bien, tous américains, enfin je le crains, c'est comme ça, hein, un film de pirates avec des français, ma foi, s'il y avait l'île au trésor de Raoul Ruiz, mais c'est quand même un peu particulier. Je m'égare. On va commencer cette émission de 24 notes secondes. Alors, peut-être avec un des joyaux, en fait, une comédie musicale intitulée Le Pirate, justement, The Pirate in English, un film de Vincente Minnelli tourné en 1948 sur une musique de Cole Porter, sur une comédie musicale, un musical. C'est très important de citer tout à la fois le réalisateur et l'auteur de la musique, parce que c'est souvent le co-auteur de la chose. Un film, donc, dans les rôles principaux duquel on retrouvait Judy Garland, Madame Minnelli, peut-être, nul ne l'ignore à la vie privée. Et Gene Kelly, notre grand Gene Kelly, l'un des héros de l'enfance, de ceux qui ont vécu avec Fred Astaire et autres, qui considèrent toujours ces gens comme des magiciens du cinéma. Des magiciens, mais qui avaient un énorme travail derrière, puisqu'ils avaient une culture chorégraphique très importante, une forme athlétique pour interpréter des rôles pareils. Et bref, Gene Kelly, l'immortel héros de Chantons sous la pluie et des Demoiselles de Rochefort, enfin un film français. Allez, on va écouter un extrait de cette bande originale. Je crois, on verra après, qu'on y écoute Judy Garland et Gene Kelly, Le Pirate, dans 24 notes secondes.
Come to me, come to me.
Bien difficile de dire quoi que ce soit de neuf sur la voix de Judy Garland, que vous aurez sans doute reconnu, Gene Kelly, c'était pour plus tard, dans un extrait de la bande originale du Pirate, un film de Vincente Minnelli tourné en 1948. Alors j'ai un peu triché parce que c'est pas vraiment un film de pirate. Le pirate, il y a des pirates certes, mais il n'y a pas de galions, de trésors cachés ou autres. Mais par contre, c'est plutôt un bel hommage au spectacle et au rêve que donne le spectacle, puisque le, sauf erreur de ma part, le film se conclut avec cette fameuse chanson Be a Clown, chantée cette fois par Gene Kelly et Judy Garland en duo, qui est une sorte de profession de foi de ce que c'est qu'être acteur et de faire rêver les gens. Un métier bien difficile, comme on l'a évoqué tout à l'heure, puisque derrière l'apparente facilité des danseurs, les chorégraphies étaient co-signées par Gene Kelly et des chanteurs, il y a des heures, des jours, des années de travail et de difficile travail. Comme le disait je ne sais plus qui, pourquoi est-ce qu'on... Je crois que c'est Annie Fratellini qui disait, mais pourquoi est-ce qu'on dit le cirque quand on parle de désordre, alors que le cirque, c'est la chose la mieux organisée du monde et que derrière, il y a énormément de travail. Voilà, bon, petit hommage aux acteurs et aux artistes, ils le méritent bien. Et on va écouter un extrait d'un autre film. Alors là, un vrai film de pirate. Et en fait, le premier film de pirate à mettre en vedette une femme. Ça, c'était là encore assez étonnant, puisque jusqu'alors, le monde des pirates était quand même un monde de garçons ou d'hommes, comme on veut. Et en 1951, eh bien, dans un film très astucieux, dont le scénario était signé de Philip Yune, mais qui était adapté, pardonnez-moi, d'une nouvelle, Anne of the Indies. C'était d'ailleurs le titre original du film, La flibustière des Antilles en français, eh bien Jack Turner mettait en vedette Jean Peters dans le rôle de la capitaine Anne Providence, une Française de chez nous, aux côtés de Louis Jourdan qui jouait le rôle du capitaine Pierre-François La Rochelle. Donc autant dire que les principaux interprètes, eh bien, c'était des Français, et que d'ailleurs une large part de la légende des pirates et des corsaires, il y a une différence entre les deux que je n'explicite pas maintenant, eh bien, elle se fait aussi autour des querelles entre les navires anglais et les navires français. On écoute un extrait de cette bande originale, donc de La flibustière des Antilles. Elle est signée de Franz Waxman dans 24 notes secondes. Thank you. La musique, pardonnez-moi, de Franz Waxman pour la flibustière des Antilles, Anne of the Indies, puisque nul ne l'ignore, Indies en anglais ça veut dire Antilles et non pas Inde, comme on aurait pu le penser. Un film de Jack Turner avec en vedette Gene Peters et Louis Jourdan, un film de flibustier, donc de pirate à l'ancienne, très années 50, peut-être un peu vieilli, mais ma foi, plutôt bienvenu à l'époque. Et on va rester dans ces années 50, évidemment, on va rester avec les films de pirates, de flibustier et autres, en écoutant cette fois un extrait de la bande originale d'un chef-d'œuvre signé Fritz Lang, un film intitulé Moonfleet, Les contrebandiers de Moonfleet, adapté d'un roman très connu de John Mead Falkner. Alors, c'est pas vraiment un film de pirates, car ça se passe sur la terre, mais au bord de la mer, il y a un trésor caché, il y a quand même beaucoup de pirates, même s'il n'y a pas de navire. Dans les rôles principaux, on trouve Stewart Granger et George Saunders, certainement deux des acteurs les plus classiques de l'époque. Alors, Fritz Lang, plutôt coutumier du fait, renia ensuite le film, estima qu'il avait été remonté contre sa volonté, que lui-même avait quitté le tournage dès le dernier jour, bref, que ce n'était pas son film. Il l'a fait à plusieurs reprises au long de sa carrière américaine, qui fut des plus tourmentées. Peut-être effectivement qu'il n'a pas toujours eu des scénarios à l'aune de son immense talent prouvé dès le temps du muet dans le cinéma allemand. Ma foi, Les contrebandiers de Moonfleet, aussi bien pour ce qui est du scénario que de la photographie et de l'interprétation, c'est quand même loin d'être du second niveau, et avec des acteurs aussi classiques, eh bien, c'est un petit chef-d'œuvre. Alors, considéré comme un film pour enfants, ce qui est un peu curieux, parce que moi je me souviens l'avoir vu enfant et je garde une vision terrifiée, peut-être si vous l'avez vu, vous en garderez aussi une vision terrifiée, d'un ange au-dessus d'une tombe qui surgit à un moment du film, le genre d'image qui vous marque quand vous êtes petit. Mais c'est vrai que les héros sont aussi des enfants dans la grande tradition anglo-saxonne de la fin du 19e. La musique, elle est signée, alors là encore, d'un grand Hollywood comme Franz Waxman évoqué tout à l'heure, Miklos Rossa, qui dans les années 50-60 fut des grands péplums, Ben Hur, Quo Vadis, non pas le roi des rois, si je crois, à vérifier, quelques autres, et en tout cas donc qui en 1955 signait la partition des contrebandiers des Moonfleet en 24 notes secondes. Le lyrisme toujours éclatant de Miklos Rossard, qui est bien l'auteur de la musique du Roi des Rois, pour un extrait de la bande originale des Contrebandiers de Moonflint, Fritz Lang, 1955, un film de pirates, sujet auquel nous consacrons 24 notes secondes. Alors il y aurait beaucoup à dire sur le film suivant, mais on va passer plutôt de la musique. Ça s'appelle L'île aux pirates, en anglais Cutthroat Island, et du coup en québécois L'île coupe-gorge, comme ça vous aurez tout compris. C'est un film de Rémy Harlin sorti en 1995 qui mettait en vedette là encore une femme pirate, Gina Davis. On ne m'en voudra pas de dire qu'à l'époque c'était aussi la compagne de Rémy Harlin. À ses côtés, il y a Matthew Modine. Le film était plutôt bienvenu. Ce fut certainement l'un des plus gros flops commerciaux de tous les temps à Hollywood. Pendant des années, il garda la palme, ô combien peu convoitée, puisque les pertes du film sont estimées à 90 millions de dollars de l'époque. C'est quand même beaucoup d'argent. Et c'est dommage, car le film gagne à être connu et sa musique, maintenant, elle est devenue culte. Et on va en écouter un extrait. Elle est signée de John Debney. L'île aux pirates dans 24 notes secondes. Ah ben si c'est pas de la musique enlevée, je ne m'y connais pas. Un extrait de la bande originale de L'île aux pirates, un film de Rennie Harlin sorti en 1995, une musique de John Debney. Il y a même des chœurs. Mais en fait, je trouve ça formidable. Je veux dire que c'est une très belle partition. Alors on a évoqué tout à l'heure Miklos Rossa dans notre série Âge d'or de la musique de films hollywoodienne avec L'île aux pirates. Et bien John Debney faisait plutôt penser à Eric Wolfgang Korngold qui quelque part dans les années 1930-1940 fut le musicien notamment des collaborations entre Errol Flynn, Olivia de Havilland, Michael Curtis. Il y avait un aigle des mers qu'on aurait pu passer dans le cadre de cette émission aussi. Et cette musique de John Debney, eh bien, elle rappelait un peu ce temps bondissant. Vraiment, on n'hésitait pas à avoir de la musique de film d'aventure, mais de la vraie musique, pas du synthétique. J'y reviens. Et ma foi, par contre, ce fut un tel échec commercial, comme je l'ai évoqué avant d'écouter cet extrait, qu'il fallut presque une vingtaine d'années avant que Hollywood se décide à retrouver le chemin des films de pirates. Et puis, quelque part, au début des années 2000, les producteurs hollywoodien et notamment Jerry Bruckheimer et ce genre de choses, dire bah tiens, il y a une attraction qui marche bien à Walt Disney Park, c'est Pirates des Caraïbes. Donc si on faisait un film avec ça, c'était une idée, un truc. Ah ouais, c'est pas une mauvaise idée, tiens. Et en 2003, eh bien, on vit sortir sur les écrans un film intitulé Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, qui allait être, mais on ne le savait pas encore, le premier volet d'une longue série, puisque après ce film premier réalisé par Gore Verbinski, eh bien, on vit, je reprends ma petite fiche, on vit le secret du coffre maudit jusqu'au bout du monde, la fontaine de jouvence et la vengeance de Salazar, dont la caractéristique, pour faire rapide, c'est qu'il y avait de moins en moins de scénarios et de plus en plus d'effets spéciaux numériques. Je ne sais pas si on peut compter parmi les effets spéciaux numériques la prestation de Johnny Depp dans le rôle vedette de Jack Sparrow, pour laquelle il est devenu immensément célèbre, mais ma foi, il s'en tirait plutôt bien. Il faut reconnaître que son personnage avait de l'allant. Dans le premier volet, il y a Orlando Bloom, Keira Knightley, Geoffrey Rush. Dans les autres, peu importe. Dans le premier volet, il y a aussi Hans Zimmer et Klaus Badelt, qui est le fils caché de Hans Zimmer, comme les fidèles de 24 noces secondes le savent déjà. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de vraie musique symphonique et maintenant je parle de musique synthétique. Je n'en dirai pas plus, les fans de 24 noces secondes connaissent aussi mon sentiment sur Hans Zimmer, mais on ne pouvait pas se passer dans une émission consacrée aux pirates d'un extrait de la bande originale de Pirates des Caraïbes dans 24 noces secondes. Voilà, vous pouvez hisser la voile. 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.